France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
L'élévation du niveau de la mer est considérée par l'ONU comme une menace urgente et croissante. Quels sont les mécanismes qui provoquent la montée des eaux et pourquoi ce phénomène s'accélère-t-il ? Entre 1901 et 2024, le niveau moyen des océans a augmenté de 23 cm et atteint un record historique. Et l'accélération s'intensifie. Que l'on réduise ou non nos émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2050, une hausse supplémentaire de 10 à 25 cm est attendue. Donc même si on parvient à limiter le réchauffement climatique, conformément à l'accord de Paris, la planète va connaître une augmentation importante du niveau de la mer. Or, 10% de la population mondiale vit dans des zones côtières à moins de 10 mètres d'altitude, dont 50 millions d'Européens. Comment ce constat est-il modélisé ? Montée des eaux face à la mer. Et Marina Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe, chercheuse CNRS au l'océan IPSL, nouvelle directrice de l'Institut à l'océan de l'Alliance Sorbonne Université, et vous publiez dans un mois « Quand l'océan s'éveillera » aux éditions Stock. Gonerie Lecozané, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au BRGM sur les risques côtiers, le Bureau de recherche géologique et minière, et vous êtes co-auteur du 6e rapport du GIEC. Grand merci à vous deux d'être là avec nous. Soyez les bienvenus. Merci à vous également qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Et merci également à ceux qui nous rejoignent sur Blue Sky. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette plateforme moins toxique que les autres. Et nous aussi, nous restons à votre écoute sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelques millimètres par an supplémentaires, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce irréversible ? Et quelles sont les conséquences de cette élévation du niveau de la mer ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, depuis quand avons-nous évoqué cette possibilité ? On commence avec notre archive du jour. Nous sommes en 1949.
Les éditions Artaud viennent de publier un ouvrage intitulé Terre Arctique. L'auteur de cet ouvrage est Monsieur de Cailleux, qui a participé à la première expédition Paul-Émile Victor au Groenland. En quelle qualité avez-vous été avec Paul-Émile Victor, Monsieur de Cailleux ?
J'étais chef de la section des sciences naturelles et j'avais emmené avec moi trois assistants qui ont fait là-bas d'excellents travaux scientifiques.
Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le but des recherches que vous avez poursuivies là-bas ?
Le but principal des recherches de l'expédition était l'étude de la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland et dont l'épaisseur atteint peut-être 2000 à 3000 mètres. D'ailleurs, il n'est pas absolument sûr que toute cette calotte soit entièrement en glace, et il est possible que seul le dessus soit glacé et que le dessous soit une poche liquide.
Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences si cette poche liquide venait ?
S'il en est ainsi, et si par malheur cette poche liquide venait à crever, en même temps dans le Groenland et dans l'Antarctique également en glacé, le niveau des mers dans le monde remonterait d'au moins 10 à 20 mètres, ce qui représenterait une catastrophe mondiale. Dieu merci, il est fort possible que cette poche n'existe pas et nous le souhaitons tous très vivement. En particulier, nous souhaitons que les recherches entreprises cette année montrent que c'est bien de la bonne et solide glace jusqu'au bas de l'ensemble.
Voilà un extrait du magazine de la mer sur la RDF en 1949. Marina Lévy, depuis quand cette question nous préoccupe-t-elle pour répondre à cette archive ?
Mais je crois qu'on est préoccupé par l'élévation du niveau de la mer, en fait, essentiellement depuis le premier rapport du GIEC en 1992, qui a commencé vraiment à alerter sur la base d'un consensus scientifique sur le changement climatique. Parce que l'élévation du niveau de la mer, c'est un signal vraiment très clair du changement climatique.
Et on verra en effet pourquoi, en effet, c'est un signe clair de changement, du changement climatique. Mais Gonerie Lecozané, votre écoute, vous aussi, de cet extrait sonore ?
C'est assez émouvant parce qu'en fait, c'est en 1949 et c'est quelques années après les premières publications qui, en fait, observent l'élévation du niveau de la mer, qui montrent que le niveau de la mer est en train de s'élever. C'est des gens qui étudient les marégraphes, en fait, qui ont montré ça dans un article de 1941. Et puis d'autre part, des spécialistes des zones polaires qui constatent que les glaciers polaires sont en train de fondre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ils arrivent tous les deux à peu près à la même estimation, 0,5 mm par an. Et ça coïncide. Alors un peu par hasard, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se compensent, c'est extrêmement difficile de mesurer le niveau de la mer. Mais c'est émouvant de voir qu'à cette époque, déjà, on avait déjà des bases scientifiques solides, évidemment pas aussi claires que dans le premier rapport du GIEC, mais tout de même sur la table.
Et on verra comment on établit justement ce consensus scientifique-là. Mais peut-être qu'on peut commencer par un état des lieux. Selon une étude parue en janvier dans la revue Advances in Atmospheric Science, les océans ont absorbé une quantité record d'énergie en 2025. Alors aujourd'hui, on en est où, Marina Lavi, à quel niveau de montée des eaux on en est?
Je pense que déjà, on peut revenir sur cette question d'absorption d'énergie parce que ça explique la montée des eaux. Effectivement, quand on pense au changement climatique, on pense à l'effet de serre. Et l'effet de serre, ça conduit à un excédent de chaleur dans le système de la planète. Et on a, je pense, souvent tendance à penser que cette chaleur, elle réchauffe notre atmosphère. Mais en fait, si on regarde les chiffres, il y a seulement 1% de cette chaleur qui sert à réchauffer l'atmosphère. 5% réchauffe les terres. On va avoir 3% qui conduit à la fonte des glaces, et le reste, 91%, c'est le réchauffement de l'océan. Et ça, c'est lié au fait que l'eau, ça a une capacité calorifique très importante. Donc, cet excédent de chaleur, il conduit au réchauffement de l'océan et à la fonte des glaces. Et c'est ça ce qui va expliquer l'élévation du niveau de la mer, parce que des eaux plus chaudes, elles se dilatent, elles occupent un volume plus important. Et puis, la fonte des glaces, ça rajoute de l'eau douce. La fonte des calottes glaciaires, des glaciers de montagne, ça va rajouter de l'eau douce, donc ça va augmenter la quantité totale de l'eau. Donc, la question que vous m'avez posée, c'est de combien ça s'élève, c'est ça. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure au début de l'émission, votre chiffre est exact, c'est plus 23 centimètres. C'est une moyenne à l'échelle du globe, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Il y a des disparités régionales. Et c'est plus 23 centimètres depuis qu'on le mesure de manière régulière, c'est-à-dire depuis 1901. On reviendra tout à l'heure sur les différentes façons de le mesurer. Je pense que c'est important. Et peut-être j'anticipe un petit peu vos questions, mais puisqu'on parlait tout à l'heure de la vitesse à laquelle le niveau de la mer monte, la vitesse moyenne au début du XXe siècle, c'est un peu plus que ce que tu as dit dans les années 40, parce que c'est une moyenne sur le XXe siècle, c'était autour de 2 mm par an. C'est les chiffres que j'ai trouvés. Alors, bon. Ensuite, dans la décennie 1990-2010, on était plutôt autour de 3 mm par an. Et la dernière décennie, on a vraiment une accélération, on est à 5 mm par an. Donc c'est ça qui est vraiment préoccupant, c'est non seulement l'élévation régulière, c'est-à-dire que ça continue chaque année, le niveau de la mer est plus élevé que l'année précédente, c'est vraiment cumulatif, et ça s'accélère.
Voilà, une accélération du phénomène très clair, mais 5 mm par an, Gonéry, Le Causané, on peut se dire, c'est ridicule.
Alors le problème de l'élévation du niveau de la mer, c'est qu'aujourd'hui on sait que c'est entre 4 et 5 mm par an, mais on sait également que ça va se poursuivre pendant des siècles. On sait que ça va se poursuivre pendant des siècles parce que les glaciers de montagne, ils sont en déséquilibre avec le climat actuel, ils vont continuer à fondre. Les calottes de glace Antarctique et Groenland, dont on parlait dans le reportage, ce sont effectivement des masses d'eau énormes. Le Groenland, ça représente 7 mètres d'élévation au niveau de la mer. L'Antarctique, 60 mètres. Mais évidemment, ils vont pas fondre en un siècle, mais ça représente des masses d'eau très importantes. On sait que ces objets-là vont continuer à répondre au réchauffement climatique en fondant. On sait que l'océan va continuer à accumuler de la chaleur et on va avoir de l'expansion thermique et donc de l'élévation au niveau de la mer. Donc, comparé aux autres problèmes liés au changement climatique, comme par exemple la multiplication des canicules, etc., l'élévation au niveau de la mer, c'est très particulier parce que on ne peut pas vraiment l'arrêter. Au mieux, avec l'atténuation, et c'est très important de faire l'atténuation, on peut espérer que son rythme n'accélère pas trop.
C'est-à-dire que c'est complètement irréversible comme phénomène.
C'est irréversible. En fait, si on voulait revenir au niveau marin du 19e siècle, il faudrait revenir à un niveau de réchauffement en fait, qui soit inférieur à celui de la période interglaciaire.
Marina Lévy, justement sur l'irréversibilité de ce phénomène.
Oui, c'est complètement inéluctable, inéluctable, irréversible à l'échelle de temps humaine, sur une centaine, mille ans, c'est irréversible, on peut le dire. Et puis, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est cumulatif. Mais vraiment, je pense que moi, j'insiste sur le message que Gonéry vient de donner. Ce qui est important, c'est que le niveau futur de l'élévation, ça va dépendre du rythme du réchauffement. Et ce rythme de réchauffement, ça va dépendre du rythme auquel on continue d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, les émissions actuelles, nos émissions actuelles de gaz à effet de serre, elles vont déterminer de manière très importante l'élévation future à l'horizon 2100, mais également à l'horizon de l'an 3000. Et ça, C'est ça qu'il faut voir en tête, c'est à quel point ce qu'on va faire sur 25 à 50 ans, ça va jouer pour les 1000 prochaines années. Là.
Gonéry Le Cozani, justement, à quoi on peut s'attendre d'ici 2050 et la fin du siècle, selon nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre?
Alors d'ici 2050, entre guillemets, la messe est dite, en fait, parce que finalement, on sait que les glaciers vont continuer à fondre, qu'on va avoir l'expansion thermique, donc c'est 15, 20 cm de plus d'élévation au niveau de la mer. En fait, les choses commencent à diverger, en fait, selon les actions qu'on va mettre en œuvre en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la deuxième partie du 21e siècle. Et effectivement, pour des scénarios à très forte émission, vous pouvez avoir entre 80 cm et 1 mètre, voire davantage, si l'Antarctique répond de manière rapide à ce réchauffement climatique. C'est vraiment la deuxième grosse incertitude. On en a deux. Quelles seront les émissions? Et quelle sera la réponse de l'Antarctique et du Groenland, dans une certaine mesure, à ce réchauffement? Et puis, pour des scénarios plus faibles, on aurait entre 50 cm et puis 80 cm. Mais ce qui est très important, c'est que ça continue. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup en France de la TRAC, c'est la trajectoire pour l'adaptation au changement climatique. On dit qu'on va vers 3 degrés. Pourquoi 3 degrés? Parce que ce sont les engagements des États. Et à ce niveau de réchauffement, en 2100, le niveau de la mer monte de 1 cm par an.
Marina Lévy.
Oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai toujours en tête les courbes qui sont publiées dans le rapport du GIEC. Et quand vous voyez ces courbes, vous voyez l'élévation du niveau de la mer là, qui augmente doucement depuis 1901. Donc, on voit bien qu'on a bien prévu ce qui allait se passer. Et ça, c'est quand même important de savoir qu'on a bien prévu ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'effectivement, jusqu'à 2050, je répète un peu, mais jusqu'à 2050, en gros, l'élévation future, elle est peu dépendante des émissions à court terme, parce qu'elle est beaucoup dépendante des émissions passé, de ce qu'on a déjà émis dans l'atmosphère. Comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de cumulatif. Et puis, quand on regarde entre 2050 et 2100, on regarde ces courbes et on voit que ça diverge. Et on voit vraiment, c'est fait avec des couleurs, les courbes. Donc, c'est différents scénarios qui correspondent à différentes couleurs. Et on voit vraiment les courbes qui partent vers le haut. Et il y en a une qui est particulièrement importante, qu'ils ont mis en pointillé. Ils n'ont pas osé la mettre en couleur, qui est la courbe du scénario le plus improbable. Et elle est pas probable. Et il y a beaucoup d'incertitudes scientifique là-dessus, mais c'est lié à des phénomènes de fonte de glace et au niveau des limites des calottes polaires. Il y a des phénomènes d'instabilité et il se pourrait que ça soit plus rapide que prévu et que donc il y a quand même une possibilité d'une augmentation beaucoup plus rapide que 1 mètre à l'horizon 2100 qu'on ne peut pas complètement effacer.
Alors comment infléchir ces courbes justement? Quels sont les mécanismes en jeu? On reste ensemble, on vous éclaire.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Toujours en direct sur France Culture avec Marina Lévy et Gonéry Le Cozani, on discute de cette montée du niveau de la mer qui est en pleine accélération. On l'a dit, les océans ont absorbé une quantité record d'énergie en 2025 et c'est un phénomène donc propice à l'élévation du niveau de la mer, aux tempêtes violentes, au dépérissement des coraux. Rentrons un peu plus dans le détail des causes et des mécanismes de ce phénomène. Le premier facteur, Gonéry Le Cozani, c'est la fonte des glaces terrestres avec la hausse des températures.
Exactement, c'est les glaciers de montagne qui fondent. Alors on pense aux Alpes, mais en fait c'est aussi les grands glaciers en Arctique en fait. Et puis les calottes de glace, alors le Groenland et l'Antarctique on a des observations depuis le début des années 2000 où on voit par exemple quand on parle de l'accélération du niveau de la mer depuis le début des années 2000, il y en a une grande partie qui est liée à la fonte du Groenland par exemple.
Mais il faut aussi distinguer glace polaire et banquise.
Absolument, parce qu'en fait, la banquise, mais ça peut-être tu peux le dire.
Non, vas-y.
La banquise, effectivement, elle flotte. Donc, lorsqu'elle fond, elle ne contribue pas en fait directement à l'élévation au niveau de la mer. Après, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font que ça favorise l'accumulation de chaleur dans l'océan Arctique, etc. Mais c'est de la glace qui flotte et donc ça ne ramène pas d'élévation au niveau de la mer.
Marina Lévy.
Et oui, effectivement, l'élévation du niveau de la mer, on imagine que c'est lié à la fonte de la glace, mais c'est pas que lié à la fonte de la glace, c'est aussi lié, et ça on y pense moins, à l'augmentation de la température de l'eau, parce que l'eau plus chaude, elle occupe un plus gros volume, et donc ça fait monter le niveau de la mer. Est-ce que vous avez une idée, à votre avis, quelle est la contribution de chacun des deux mécanismes?
Là, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique de l'eau, et en effet, ça joue, ça a son poids dans le phénomène de l'élévation.
Ça a même un poids assez important, parce que c'est la moitié quand même.
Entre 30% et 50% de...
La moitié, c'est lié à la dilatation thermique. Alors, ce phénomène d'accélération qu'on avait, d'augmentation du niveau de la mer... jusqu'à dans les années 2010, il était essentiellement attribué à l'accélération dans la fonte des glaces. Et c'était ça qui expliquait l'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Et récemment, là, cette dernière décennie, on a mis en évidence une accélération également dans le réchauffement de l'océan et de l'eau de surface. Vous savez que l'océan a jamais contenu autant de chaleur qu'il en contient aujourd'hui. Donc on atteint des valeurs records en 2025. Il n'y a pas que les eaux de surface qui se réchauffent, parce qu'il y a toute une circulation dans l'océan qui fait que cette chaleur, elle pénètre à l'intérieur. Donc les eaux de surface, elles sont très variables. La température des eaux de surface est très variable. Donc en 2025, on n'a pas la plus haute température des eaux de surface. Néanmoins, c'est la troisième année derrière 2023 et 2024. Donc on est quand même dans un mécanisme de réchauffement global très important.
Ouais, pour tout comprendre justement sur cette augmentation des températures océaniques, je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à notre podcast Canicule Marine, le mal des mers. Je reviens sur la fonte justement des glaces terrestres. On a aussi une fonte qui est soumise à des boucles de rétroaction qui accélèrent son rythme, Gonéry Le Cozanet.
Oui, alors...
Je pense à l'effet albédo, tout simplement.
Absolument. Alors, bon, voilà, je suis pas spécialiste de questions, hein. Moi, je suis sur les risques, hein. Mais toujours est-il qu'effectivement, quand vous avez le Groenland qui fond, vous avez moins de neige qui couvre la calotte. Vous avez une glace qui devient, qui accumule plus facilement de la chaleur parce qu'elle devient plus sombre. Et ça accélère, en fait, cette fonte. Vous avez pas que des boucles de rétroaction, vous avez aussi des phénomènes, en fait, aux frontières entre la calotte et l'océan, par exemple. Et ça, c'est très important. En Antarctique. En Antarctique, on a des calottes de glace marine, c'est-à-dire qu'en fait, elles reposent sur un socle qui est en dessous du niveau de la mer. Et les processus au niveau de ce socle, ils sont extrêmement complexes. On observe effectivement un recul au niveau, en fait, à ce qu'on appelle la ligne d'échouage, l'endroit, en fait, où la calotte repose sur le socle. On est à des conditions de pression, en fait, qui font que des toutes petites variations de température suffisent à faire fondre la glace. Et on observe effectivement un recul qui est lié à ça. Et toute la question, c'est qu'est-ce que ça va faire avec un réchauffement qui se poursuit et qui est extrêmement rapide.
Et du côté de la fonte de la calotte, de la glace de l'Antarctique, Marina Lévy, qui elle inspire vraiment des craintes, on peut dire même cataclysmiques.
Oui, effectivement, là, ça peut conduire à des élévations du niveau de la mer de 5 à 10 mètres. Mais ce qui, c'est ça, hein.
À l'échelle de quelques siècles.
À l'échelle de quelques siècles, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la montée du niveau de la mer est pas homogène à l'échelle du globe, justement, parce que ces arrivées d'eau, elles sont pas réparties de manière homogène, parce que le réchauffement aussi est inégal, et donc la dilatation est variable selon un endroit ou l'autre, parce que les vents et les courants déplacent ces eaux. Il y a des effets que tu dois sans doute mieux connaître que moi, mais les effets gravitationnels qui sont liés à la fonte des glaces, qui fait que dans certaines régions, en fait, le niveau de la mer, il a même tendance à baisser plutôt qu'à augmenter. Donc c'est très inégal tout ça. Et c'est important donc d'avoir une vision un peu qui évolue dans l'espace-temps de cette élévation.
Gonéry Le Cozanet.
Oui, les effets gravitationnels, c'est quelque chose. Alors là, on commence à parler de la variabilité régionale de l'élévation du niveau de la mer. Pourquoi il y a de la variabilité régionale ? Parce que les masses d'eau chaude ne se réchauffent pas de manière uniforme. Donc là où on a plus de réchauffement, là où les courants accumulent les masses d'eau chaude, on a davantage d'expansion thermique et donc le niveau de la mer monte plus vite. Mais on a aussi des effets gravitationnel. Qu'est-ce que c'est ? On perd de la masse au Groenland. On perd de la masse au Groenland et en fait, en faisant ça, on déforme le champ de gravité de la Terre. On déforme la forme de la Terre. On pourrait penser que c'est des toutes petites masses, mais pas du tout. C'est des masses très importantes. Et en fait, en réalité, quand vous perdez de la masse au Groenland, c'est la loi de la gravitation, l'eau qui a fondu se retrouve loin de la source. Et de manière complètement contre-intuitive, localement au Groenland, vous avez une baisse du niveau marin. Et partout ailleurs, vous avez une hausse plus importante. Ce qui fait que quand vous regardez finalement quel est l'effet de la fonte des calottes de glace et des glaciers de montagne, vous vous apercevez en fait que la conséquence est d'avoir une élévation de niveau de la mer qui est plus importante que la moyenne au niveau de l'équateur, en deux mots.
Très bien, voilà, on parle des facteurs, de tous ces éléments qui sont des conséquences aussi directes du changement climatique, mais on a aussi d'autres facteurs qui sont d'ordre géologique, Marina Lévy. Je pense par exemple la subsidence, ou avec vous, Gonéry-Le-Cosanet, hein, le sol qui s'enfonce dans certaines zones.
Enfin, effectivement, alors déjà, la première chose, on parlait tout à l'heure là, des pionniers un petit peu, là, Beto Gutenberg, etc., là, dans les années 40, c'est le problème qu'ils ont eu en fait. Ils avaient des marégraphes très mal distribués autour du monde, dans des zones où on a des mouvements verticaux du sol. En Scandinavie par exemple, où le socle se rehausse parce qu'on a eu une perte d'une calotte de glace il y a... 10 000 ans en fait. Et le sol est toujours en train de se soulever. On a d'autres secteurs où le sol s'enfonce. Par exemple, à Miani, dans les Philippines, un marégraphe extrêmement long, on a des pompages d'eau souterraine qui font que le marégraphe s'enfonce. Et donc la question, en fait, quand vous vous intéressez à l'élévation au niveau de la mer, vous n'êtes pas intéressé qu'à la moyenne globale. Pour la question des risques, des impacts, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe localement. Vous êtes obligé de regarder qu'est-ce qui se passe en termes de subsidence, c'est-à-dire un sol qui s'enfonce, ou éventuellement de surrection, c'est-à-dire un sol qui se rehausse.
Un sol qui se rehausse. Puis on a aussi les végétations côtières qui sont des remparts contre les vagues et qui sont aussi de plus en plus détruits dans la crise environnementale actuelle.
Ouais, peut-être, laissez-moi revenir un petit peu sur la subsidence. C'est vrai que la montée de l'eau, on a vu, c'était très, très inhomogène. Hein. Et donc, il y a certains endroits où ça peut être 1 cm par an. Hein. Dans certains extrêmes, je vois la côte est des États-Unis, par exemple, c'est vraiment un endroit où ça monte assez fort. La subsidence, l'affaissement du sol, c'est beaucoup plus rapide. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, les ordres de grandeur. La subsidence, ça peut être 10 cm par an. Ça peut même être 20 cm par an. Je sais qu'à Mayotte, il y avait eu un exemple d'un volcan qui avait créé tout d'un coup un affaissement de 20 cm en 2018. Il y a aussi les grands deltas qui s'affaissent. En particulier, moi, je travaillais avant pour l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. On avait été au Vietnam. Et au Vietnam, ça s'affaisse aussi de manière préoccupante. Et donc, c'est lié à l'activité humaine, mais pas via le climat. C'est lié au pompage d'eau souterraine, à l'utilisation de sable, l'extraction de sable. Ça peut être lié au développement de grandes villes qui vont appuyer sur le sol. Donc, il y a des phénomènes naturels, mais c'est aussi des actions humaines qui viennent s'ajouter aux actions climatiques. Et je pense que sur l'océan...
La pression anthropique en plus.
Je pense que quand on parle de l'océan, c'est important de se rendre compte que les pressions anthropiques, c'est pas que des pressions climatiques et qu'elles viennent toutes s'additionner les unes aux autres. Et là, on a vraiment un bel exemple quand on parle de l'élévation du niveau de la mer. On a l'effet climatique qui vient s'ajouter à d'autres pressions anthropiques. Et puis tout ça, ça fait des centimètres qui s'additionnent.
Vous avez évoqué ces marégraphes. Alors que sont ces outils? Comment mesure-t-on ce niveau de la mer? On poursuit.
Deux siècles d'archives roulés dans la poussière. Tous les relevés depuis 1806 du plus vieux marégraphe du monde, celui de Brest. Une relique qui dort dans l'arsenal du port.
La mesure est prise dans le puits du marégraphe. C'est un puits, on appelle ça un puits de tranquillisation, dont la fonction est de filtrer les variations trop rapides, la houle, les vagues, etc.
Précis, mais modeste. Parmi les 300 marégraphes répartis dans le monde, seul celui de Brest a pu mesurer le niveau de la mer sur 200 ans.
Ça augmente d'un peu plus de 10 cm par siècle.
C'est quand même pas mal, oui, effectivement.
Donc ça fait une vingtaine de centimètres depuis le début des observations.
Ces mesures antiques sont confirmées par les satellites d'aujourd'hui. Celui-ci est franco-américain. Baptisé Topex Poséidon, il mesure le niveau des océans depuis 8 ans avec une précision extrême. Il balaye la surface du globe tous les 10 jours à raison de 10 mesures par seconde.
Nous observons la position du niveau de la mer avec une précision de 2 cm. Quand on moyenne cette information à la surface de la Terre, nous arrivons à la précision millimétrique. Et c'est précisément cette précision millimétrique dont on a besoin pour savoir si le niveau de la mer actuellement monte ou descend.
Là, l'émission, un extrait de l'émission Géopolis en 1999 sur France 2, Gonéry-Le-Cosanet, ben justement, c'est marégraphe. Comment fonctionne-t-il et comment est-il utilisé sur le temps long pour se rendre compte de ce phénomène de l'élévation du niveau des eaux?
Au départ, ils n'ont pas été conçus pour observer l'élévation au niveau de la mer, en fait. Ils ont été conçus pour des problèmes de navigation, d'accès au port, en fait. Effectivement, à un moment, il y a eu des militaires, en fait, qui se sont dit, on va observer ces niveaux marins et on va les conserver. Et en fait, à Brest, en réalité, c'est au XVIIe siècle, on a des mesures du XVIIe siècle en réalité. Et tout à l'heure, on parlait voilà des années 40, etc. C'est vraiment un effort collectif d'une communauté de recherche qui s'est intéressée au niveau de la mer entre les années 20 et 40, qui a consisté à agréger en fait toutes les données marégraphiques dont on disposait à l'époque. Voilà. Alors, qui était très mal distribué autour du globe, plutôt dans l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, un peu au Japon, et a essayé de voir si on avait, oui ou non, une élévation du niveau de la mer mesurable, globale.
Et c'est surtout, comme, alors vous parlez en effet d'une disparité selon les hémisphères, mais c'est à partir des années 90 quand même que tout ça, ça commence à devenir plus uniforme à l'échelle de la planète, et puis surtout, ça commence à devenir numérisé.
Voilà. Alors, toutes ces données ont continué à être accumulées et donc petit à petit vous avez de plus en plus de marégraphes et donc on constate que oui l'élévation au niveau de la mer s'élève et on a toujours des problèmes avec ces mouvements verticaux du sol quand même mais à un moment on a les satellites qui arrivent et voilà
c'est, et ces infos satellitaires Marina,
et,
Marina
et l'arrivée des satellites et ça a été en 1993. Ils en parlaient dans l'émission, hein, l'arrivée de Topex Poséidon. C'était une vraie révolution. C'était plus impressionnant que l'homme sur la Lune, hein. Franchement, je suis un peu biaisée. Je suis un peu biaisée, mais à peine. Mais vraiment, si vous saviez, c'est vrai. Je plaisante pas. Parce que, pour la première fois, on a vu le niveau de la mer depuis l'espace et on a vu que le niveau de la mer était pas homogène. En fait, ce satellite, je vais vous expliquer comment il fonctionnait, mais il était là pour voir les courants parce que le niveau de la mer, ça permet de mesurer les courants. Et on a vu que les courants, grâce à ce satellite, c'était pas du tout des espèces de longs fleuves tranquilles comme on les imagine, mais c'était très turbulent. Il y avait énormément de tourbillons et que c'était, l'océan, c'était un univers de bosses et de creux. Et franchement, ça, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Ça a complètement révolutionné l'océanographie. Alors, ce satellite, c'est quoi ?
Ce satellite, de l'altimétrie radar.
Là, je crois qu'on peut être fier parce que c'est une grosse collaboration entre le CNES, donc notre agence spatiale, et la NASA, avec un instrument qui a été construit aussi en France par Thales. Donc, c'est quand même une un gros succès français qui continue encore aujourd'hui parce que il y a le dernier altimètre, on appelle ça les altimètres, l'altimètre le plus récent, SWOT. C'est une autre collaboration entre le CNES et la NASA qui permet maintenant d'avoir une estimation du niveau de la mer avec des pixels beaucoup plus fins que ce qu'on avait avant. Alors oui, c'est un radiomètre. Donc c'est un radar embarqué à bord d'un instrument qui fait le tour de la Terre et qui envoie un signal. Et ce signal, il se réfléchit à la surface. Et le satellite, ce qu'il mesure, c'est le temps que ça a mis entre le moment où il a émis le signal et le moment où le signal est revenu. Donc avec le temps, avec des estimations hyper précises de la position du satellite, du déplacement qu'il a fait pendant le signal, etc., on est capable d'estimer le niveau de la mer par rapport à une référence avec effectivement une précision millimétrique quand on mesure ça à l'échelle du globe. Moi, j'étais en thèse quand c'est arrivé. C'était en 1993, j'étais en thèse et franchement, ces premières images, c'était dans le laboratoire, c'était une joie incroyable. Au début, évidemment, vous voyez, au bout d'un an, deux ans de données, on ne pouvait pas encore regarder l'élévation du niveau de la mer. Il a fallu attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans pour pouvoir mesurer une tendance. Et à l'époque, on s'en servait essentiellement pour mieux comprendre les courants, pour mieux comprendre les phénomènes comme El Niño. Au début, ça a beaucoup servi pour El Niño. Et voilà. Et donc, c'est vraiment cette percée technologique qui était un vrai défi scientifique. Voir que le niveau de la mer, excusez-moi encore, mais le niveau de la mer, là, on en parle depuis tout à l'heure, mais quand on est au bord de l'eau, ce qu'on voit, c'est des vagues, des marées. On n'imagine absolument pas qu'on puisse mesurer un changement de 2 mm par an dans toute cette...
Depuis l'espace, en plus.
Depuis l'espace, avec toutes ces variations hyper rapides.
Mais je rebondis sur quelque chose que vous venez de dire, en fait. Évidemment, ces mesures, comment savoir si on observe bien, justement, une élévation du niveau des eaux, non pas une variation interannuelle liée à un processus météorologique, régional ou mondial. Ça, c'est justement parce qu'on a de la donnée sur du temps long.
C'est ça, on a de la donnée en chaque pixel. Avec Topex, on était capable de reconstruire. Au début, on avait des cartes toutes les semaines avec une résolution d'à peu près une centaine de kilomètres, c'est-à-dire qu'on avait des pixels qui faisaient 100 kilomètres de large. Donc après, on pourra en parler tout à l'heure, la précision qui est nécessaire pour aller plus près des côtes, parce que c'était effectivement des résolutions quand même assez basses. Mais on avait des données qui nous donner une estimation sur des carrés de 100 km par 100 km toutes les semaines. Et donc, on pouvait, de manière quantitative, suivre l'ensemble de la planète.
Gonéry Lucozène.
Oui, sur les marégraphes, en fait, en réalité, dans les années 90, vous avez toujours des articles en fait, scientifiques avec Paolo Parazzoli, par exemple, qui montrent que c'est toujours extrêmement difficile de mesurer précisément l'élévation au niveau de la mer avec les marégraphes. Et pourquoi ? Toujours à cause de ces mouvements verticaux du sol. Notamment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Eh bien, on avait le GPS qui commençait à arriver. Donc, on a installé des GPS à proximité des marégraphes, ou alors on a repéré des GPS permanents qui étaient déjà installés, et on a commencé à accumuler leurs données. C'est par exemple l'Université de La Rochelle, Guy Vaupelmann, qui travaille sur ces sujets. Et avec ces données GPS, on pouvait corriger l'élévation du niveau de la mer, des mouvements verticaux du sol locaux.
Et voilà comment ces outils de mesure n'ont cessé de se développer pour produire des résultats de plus en plus précis. Alors à présent, quelles sont les conséquences de l'élévation du niveau des océans ? Qui sera touché par ce phénomène ? C'est ce dont on va parler dans quelques instants. Océane de Waveform en direct sur France Culture, car nous parlons de la montée des eaux avec nos deux invités du jour, Marina Alevi, océanographe, cherche CNRS au l'océan IPSL et nouvelle directrice de l'Institut de l'océan de l'Alliance Sorbonne Université, et Gonéry Lucozène, chercheur au BRGM sur les risques côtiers. Avec la fonte des glaces terrestres et la dilatation des eaux, le niveau des océans ne cesse inéluctablement de grimper. Submersion, érosion des côtes, pertes économiques, déplacement de population et dégradation durable des écosystèmes côtiers. Comment nous protéger de la montée des eaux ? Nous allons aborder ces questions dans quelques instants. Mais on a déjà dit que cette hausse de l'océan est pas tout à fait égale sur l'ensemble de la planète. Enfin, que face à la fonte des glaces de l'Antarctique, le niveau de la mer n'augmente pas au même rythme partout. D'un point de vue de modélisation, comment est-ce qu'on prend ça en main, Marina Alevi ? Comment on modélise ces phénomènes-là ?
Comment on modélise ces phénomènes ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire modéliser ? Oui. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire modéliser ? Et puis, qu'est-ce qu'on modélise ? On modélise l'océan. Qu'est-ce que c'est l'océan ? Finalement, l'océan, c'est quoi ? Moi, je visualise ça, mais de manière hyper simple. C'est comme un bol, avec des un peu irrégulier. Le bol, hein, c'est le plancher océanique. Un bol rempli d'eau salée. Et puis ce bol, on souffle dessus. Ça, c'est vraiment le modèle le plus simple. Et puis alors après, on va le réchauffer, le refroidir. Ça, c'est l'effet du soleil. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pleuvoir dessus. On va évaporer, on va le chauffer, etc. Donc, tous ces mécanismes, tous ces phénomènes-là, qu'on peut représenter dans une échelle réduite d'un bol physique. En fait, ce qu'on fait, c'est que il y a des équations de la physique qu'on utilise pour mettre ça en équation. Donc, on s'inspire de la modélisation météorologique, hein, qui consiste aussi à mettre, en fait, c'est les mêmes équations, hein, à mettre les choses en équation, les fluides en équation, et on résout ces équations grâce à des ordinateurs. Et on les résout comment ? On les résout en faisant un maillage, ce qu'on appelle un maillage de l'océan, c'est-à-dire qu'on va couper l'océan en petites régions, en fait, et on va résoudre ces équations dans des pixels. Et c'est ça qui va nous permettre de projeter ce qui va se passer à l'avenir. C'est ça ce qui nous permet de comprendre les mécanismes, comment ils varient, la variabilité naturelle, la variabilité anthropique, de séparer les choses. C'est grâce à ces modèles numériques. Il y a un rôle croissant de l'intelligence artificielle, évidemment, pour ces modèles. Ils sont alimentés par des bases de données mondiales, des observations qui sont indispensables à la construction des modèles. Et puis surtout, quelque chose qui est vraiment important, c'est que c'est de l'open source. Tout est partagé, tout est ouvert. Et donc, c'est vraiment complètement transparent. Et c'est ça ce qui permet aux chercheurs de pouvoir travailler ensemble et développer ces outils fantastiques.
Et Marina Lévy, vous avez aussi co-dirigé l'édition 2025 de l'indicateur Starfish, ce bulletin mondial sur la santé de l'océan qui est publié en juin 2025 d'ailleurs. Ça aussi, qu'est-ce que c'est que ce baromètre Starfish ?
Le baromètre Starfish, c'est la pub un peu, ce qu'on dit, c'est le premier bulletin de santé annuel de l'océan mondial. Et en fait, on avait envie d'avoir un peu au-delà d'un bulletin de santé, d'essayer d'alerter le grand public, d'expliquer qu'on était tous concernés par l'océan. Là, on perd l'élévation du niveau de la mer, donc on a l'impression qu'on est concerné que si on vit près des côtes. Mais en fait, l'océan, ça nous concerne tous, qu'on vive loin ou proche des côtes, parce que ça joue sur le système climatique, parce que ça joue sur la santé humaine, parce que ça joue sur les équilibres géopolitiques de la planète. Donc vraiment, l'océan, ça nous concerne pour plein de raisons différentes. Et ce baromètre, ça donne des indicateurs sur comment se porte l'océan, donc les 23 cm d'élévation du niveau de la mer, mais également les conséquences, dont on n'a pas encore parlé, mais dont on va parler tout à l'heure, à savoir quelles sont les pertes économiques qui sont liées à cette élévation du niveau de la mer. L'année dernière, en 2023, les pertes économiques liées aux cyclones et aux inondations, c'était estimé, c'est pas en 2023, c'était pas l'année dernière, mais c'était en 2023, cette estimation, c'était estimé à 100 milliards de dollars. En 2024, on était à 200 milliards de dollars. Donc ça, c'est les indicateurs qui sont donnés dans Starfish. Alors pourquoi est-ce qu'on a doublé entre 2023 et 2024 ? C'est essentiellement parce qu'on a eu deux cyclones qui ont été particulièrement dévastateurs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec un océan plus chaud, il y a de fortes chances pour que les cyclones deviennent beaucoup plus puissants et intenses et dévastateurs.
C'est ça par rapport aux conséquences. Là, on évoque rapidement les conséquences économiques, mais les conséquences sur les activités humaines et sur les écosystèmes, Gonéry Lecozenet.
Oui. Alors effectivement, quand on regarde les conséquences, en fait, on va s'intéresser cette fois-ci à la fois des phénomènes qui peuvent intervenir pendant des événements extrêmes, pendant des tempêtes. Donc ça va être par exemple des submersions marines, comme Xynthia en 2010, ou alors de l'érosion également qui peut intervenir pendant ce type de phénomène. Et puis peut-être un envahissement plus progressif qu'on va voir apparaître petit à petit au fur et à mesure que le niveau de la mer s'élève. Vous allez avoir à marée haute des zones qui vont être submergées, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Ça, on commence à le voir. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'on commence à voir. Donc, après, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est vraiment ce qu'on observe. Ce sont ce qu'on appelle les risques directs. Ce sont les risques qui affectent directement les zones côtières. Mais il faut bien voir, en fait, que vous avez 80% de la masse de commerce qui est échangée, qui passe par des ports. Et donc, les ports, après, vous avez des risques indirects. C'est-à-dire que même si vous habitez en Autriche, en réalité, vous êtes concerné par l'élévation au niveau de la mer parce que les biens que vous consommez passent à un moment par des ports qui sont situés près de la mer. Et enfin, vous avez les écosystèmes côtiers. Les écosystèmes côtiers qui sont à la fois une solution parce que les écosystèmes côtiers, par exemple des marais qui sont ouverts, s'ils sont suffisamment ouverts pendant les périodes de tempête, vous allez avoir l'eau qui va envahir les marais et qui ne va pas envahir les villes adjacentes. Donc ça, c'est une solution qu'on va appeler solution fondée sur la nature. On va s'assurer que les marais soient suffisamment ouverts pendant les tempêtes. Et puis, ils sont également victimes, d'une part, de l'élévation du niveau de la mer, parce que petit à petit, ces marais se maritimisent, quoi. Mais de l'autre, par les activités humaines, parce que, en fait, derrière, le foncier est bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas migrer vers l'intérieur des terres de manière naturelle.
Justement, face à la montée des eaux, comment penser l'aménagement urbain ? Eh bien, parlons-en avec le reportage du jour. Avec le changement climatique, la montée des eaux est inéluctable, avec des risques avérés pour les populations qui vivent dans les zones à risque. Pour préserver au mieux les milieux urbains en harmonie avec l'environnement, il faut travailler à des stratégies d'adaptation. Voyons, s'adapte avec vous.
Céline Lezenne, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allée au Lab Urba à l'université Gustave Eiffel à la rencontre d'un urbaniste architecte qui étudie ces enjeux-là.
Oui, il s'appelle Bruno Barocca, il est professeur, chercheur et architecte DPLG et il déploie des méthodes combinées entre urbanisme, géomatique, géographie et écologie pour examiner des territoires exposés aux risques environnementaux et climatiques. Les littoraux, à cet égard, deviennent vulnérables face à la montée des eaux et des phénomènes extrêmes, et notamment les zones insulaires. Actuellement, il travaille sur l'île Maurice, où l'urbanisme s'est développé en disharmonie avec le milieu et qui nécessite aujourd'hui des stratégies non pas pour lutter, mais pour s'adapter à la montée des eaux.
Alors ici, on est dans une partie de la Burba qui se trouve dans le bâtiment Lavoisier. On est dans la partie bureau où vous retrouvez les enseignants-chercheurs. Et juste derrière moi, vous avez une dizaine de salles d'enseignement. Et donc dans la partie génie urbain, alors que le reste du Laborba, les enseignements se font dans d'autres composantes.
Vous êtes également chercheur et vos domaines de recherche, c'est l'urbanisme au croisement de la géomatique, de la géographie, tout un nombre de disciplines que vous mobilisez pour étudier des problèmes concrets.
Alors tout à fait, moi j'ai une formation très pluridisciplinaire au niveau des sciences de la conception, puisque je suis architecte des PLG. Donc je m'amuse en recherche, on va dire, entre le maniement de l'information cartographique, l'information spatiale, et puis la conception urbaine. Et pour faire ça, j'ai mobilisé un certain nombre de méthodes un peu spécifiques autour des infrastructures critiques, avec le recours assez régulier à l'analyse fonctionnelle et en construisant des blocs diagrammes fonctionnels qui permettent de voir comment un territoire ou un système technique urbain fonctionne et comment se propage à l'intérieur de ce système technique ou de ce morceau de territoire un certain nombre de défaillances. Alors, le littoral est soumis généralement à de nombreux types de risques, entre la submersion marine, entre le vent, entre le recul du trait de côte. On voit qu'on a des problématiques de risque qui sont extrêmement intéressantes puisqu'elles se combinent et ça repose la question en fait de l'aménagement du littoral. Donc moi je m'intéresse particulièrement au littoral dans les zones insulaires, du fait que les zones insulaires sont souvent des zones isolées en cas de catastrophe, puisque si la mer et s'il y a beaucoup de vent et une mer souvent assez difficile, ces territoires se retrouvent à gérer la catastrophe sans aide. Et c'est particulièrement intéressant quand on parle de fonctionnement, puisque ça veut dire qu'ils doivent s'appuyer sur un fonctionnement qui est uniquement basé sur leurs ressources locales.
Quelle zone insulaire vous avez pu étudier justement ?
Alors, actuellement, je travaille beaucoup sur l'île Maurice, où j'interviens sur comment habiter les risques et comment aménager l'île Maurice par rapport à un certain nombre de risques auxquels ils ont déjà à faire face et qui devraient s'intensifier dans le futur.
Alors comment un géomaticien comme vous arrive avec des acteurs locaux, des citoyens, des habitants qui connaissent bien leur territoire pour donner des conseils avec toutes ces approches-là très scientifiques ?
Je ne sais pas si je donne des conseils. En fait, je pense que ma principale contribution est d'aider à poser les questions. J'ai pas de solution. Je pense qu'en plus, c'est des cultures un peu différentes de la mienne. Et je me garde de donner des réponses, mais j'essaie de rendre compte de situations qui pourraient exister et d'amener les acteurs locaux à y réfléchir. L'intérêt de travailler notamment à l'île Maurice, c'est aussi qu'il y a une grande proximité entre la décision et l'étude, puisque c'est une toute petite nation de quelques dizaines de kilomètres carrés. Et donc on a une porosité assez forte entre l'action et la question qu'on peut aider à reformuler.
Au niveau du risque justement sur l'île Maurice, quelles sont les projections en termes de risque pour les populations qui peuplent les littoraux ?
Alors les risques, il y a une part de risque naturel dont on sait qu'ils augmentent, c'est-à-dire l'ouragan, les questions de submersion marine, etc. Mais je pense que la principale difficulté à l'île Maurice, c'est le risque que crée l'aménagement sur le territoire lui-même. En venant désorganiser le cycle de l'eau avec le fait de collecter beaucoup d'eau pluviale et de l'envoyer directement dans le lagon, ça pose des questions de salinité du lagon, avec les questions de mangroves qui ont réduit, avec tout un ensemble de situations littorales qui finalement dérègle le fonctionnement naturel et vient amplifier les risques naturels qui augmentent déjà par ailleurs.
Quand vous évoquez les solutions d'aménagement, est-ce que le concept de digue ou de zone flottante est pertinente selon vous dans cet endroit donné ?
Alors, je suis convaincu que les réponses ne peuvent pas passer par des éléments structurels. Traiter un risque en construisant une digue qui elle-même génère une autre forme de risque, je ne pense pas que ça soit la solution. Par ailleurs, ces digues, elles sont construites dans un état actuel de climat qui fait que les évolutions à venir peuvent les rendre pour partie inopérantes. Donc il me semble que c'est plus intéressant de laisser la nature faire son œuvre et venir dans les territoires, venir les inonder, et que nous puissions, par contre, venir aménager en conséquence. C'est-à-dire trouver des formes d'habitation ou de retrait ou d'organisation de nos fonctionnements qui soient en lien avec la nature sans vouloir se prémunir du fait que ce territoire est inondable. Aujourd'hui, la question par exemple du champ d'expansion des crues, laisser de la place pour que l'eau puisse s'étendre, elle est assez peu étudiée dans un espace urbain. Par contre, des quartiers, notamment d'Europe du Nord, où les espaces publics de la ville sont aussi des parts d'expansion de la crue. Ils sont pensés pour accepter la crue et la laisser venir. Et donc ces quartiers, ces espaces publics, peuvent être une fois tous les quelques années inondés, et tout est conçu pour ça. Donc on voit que dans certains espaces, ça marche, et donc on se dit que ça pourrait être reproduit à partir du moment où on se donne comme objectif de vivre avec l'inondation.
Merci Céline Lozen. Nos reportages pour sortir du studio et découvrir le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Gonéry Lecozané, une réaction à l'écoute de ce reportage.
Oui. Alors là, ce qui est évoqué, c'est finalement essayer de faire en sorte que lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a une invasion, enfin voilà, un événement extrême, on n'a pas trop de dommages. Finalement, c'est réduire la vulnérabilité des bâtiments, des personnes, lorsqu'on a un événement. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. C'est une stratégie d'adaptation. On pense en termes d'adaptation, souvent, soit on protège, on va mettre des digues énormes, etc. Et effectivement, il y a des effets indésirables, mais il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement, hein, par exemple les Pays-Bas. Et puis, soit on relocalise, on recule. Mais en fait, on a aussi cette stratégie. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle est peu coûteuse. Et elle n'engage pas trop dans l'avenir. Parce que si vous regardez les risques liés à l'élévation au niveau de la mer, en fait, il y en a trois. Il y en a un premier qui est qu'on risque d'être pris de vitesse. Si l'élévation au niveau de la mer, en fait, commence à accélérer très fortement avec une fonte très rapide de l'Antarctique. C'est le fait que l'adaptation, elle se fasse au détriment des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on va construire des digues qui vont être sur des plages et à la fin, bah, vous aurez plus d'habitat. Et puis enfin, le dernier, c'est qu'on lègue des choses ingérables aux générations futures. C'est-à-dire que, en fait, le niveau de la mer, on sait qu'il va dépasser plusieurs mètres. Et à ce moment-là, bon, les Pays-Bas ont certainement les moyens de répondre à cela, mais pas tous les territoires, et notamment beaucoup de territoires insulaires, ne pourront pas répondre par de la protection partout.
Et puis on évoquait également la présence, le risque multiplié des événements météorologiques extrêmes, Marina Lévy.
Oui, et effectivement, revenons sur le cas des Pays-Bas, par exemple. Les Pays-Bas, c'est un pays, comme son nom l'indique, qui est bas, donc il est situé en dessous du niveau de la mer, en fait. Et donc, depuis toujours, ils ont construit des digues pour pouvoir avoir de la terre sèche, je dirais. Et il y a eu une catastrophe naturelle en 1953 aux Pays-Bas, avec 2000 morts noyés en une nuit. C'était une nuit où il y a eu une tempête absolument incroyable, une marée haute, donc une surcôte. La mer était aspiré par les basses pressions océaniques, le vent, il a complètement poussé l'eau dans les terres, les digues se sont cassées, rupture des digues, tout a été inondé. Et voilà, 2000 morts, c'était une des plus grosses catastrophes du siècle aux Pays-Bas. Ce type de catastrophe qui arrivait une fois par siècle auparavant, ce que nous disent les projections du GIEC, c'est que dans un scénario de forte émission de gaz à effet de serre, on passerait à une fois par an. Donc vous voyez, il y a aussi ces phénomènes naturels extrêmes dont la fréquence risque d'augmenter. Donc vraiment, la première solution, c'est l'atténuation, c'est la diminution des gaz à effet de serre avant de penser à construire des digues, à relocaliser des gens. En France, et les habitants de Miquelon qui se préparent à déménager dans nos territoires, sur le point le plus haut de leur île. En France, on peut aussi penser...
126 communes en France qui doivent s'adapter en priorité à la montée des eaux.
Voilà. Et en Polynésie française, il y a des archipels aussi qui sont particulièrement vulnérables parce qu'ils sont de très faible altitude. On a un quart des rivages métropolitains, je crois, qui subissent l'érosion marine. Enfin, on est concernés sur toutes nos côtes partout.
Et vous parlez justement des îles, on a peut-être pas tous en tête, mais en tout cas moi j'ai en tête ce discours très fort lors de la COP26 en 2021, où un ministre ministre du Tuvalu a fait son discours les pieds dans l'eau, le discours avec de l'eau jusqu'aux cuisses pour montrer et alerter sur le risque de disparition d'une île entière avec des peuples apatrides de l'élévation du niveau des mers, Gonéry Loukozani.
Alors, le problème, c'est à quelle échéance ? En fait, la réalité, c'est qu'on sait déjà qu'on va dépasser plusieurs mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc, à quelle échéance ces États insulaires sont effectivement menacés de manière existentielle ? Voilà. Et il faut pas imaginer que ce sera au XXIe siècle, ce sera au-delà. Cela dit, c'est vraiment un vrai problème. Et en fait, ces États insulaires jouent un rôle extrêmement positif dans les négociations internationales. C'est eux, par exemple, qui ont motivé, qui ont fait une demande auprès de la Cour internationale de justice pour demander quelles étaient les obligations des États en termes de politique climatique pour lutter contre le réchauffement climatique. Et la conclusion, c'est l'avis de la Cour, c'est les États, même si l'accord de Paris n'est pas contraignant, ils ont quand même l'obligation de faire des politiques climatiques qui ne conduisent collectivement à ne pas dépasser 1,5 degré. Donc ces États ont vraiment quelque chose de... Voilà. Mais par exemple, vous prenez les Maldives. Les Maldives, effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est un pays en développement très rapide, en voie d'urbanisation. Ils construisent des îles de plus en plus sur les platiers récifaux. Et en fait, ils font des îles de plus en plus hautes. Qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, tant qu'ils ont accès à des ressources à l'extérieur des Maldives, ils peuvent continuer à créer des îles de plus en plus hautes, abandonner les plus basses. Au bout d'un moment, vous n'avez plus d'îles naturelles. Et tant qu'ils ont accès en fait à des ressources extérieures, ils construisent des îles de plus en plus hautes, etc. C'est un environnement complètement différent, où on a perdu énormément d'écosystèmes, et en premier lieu les coraux par exemple. Parce que voilà, il y aura le réchauffement, il y a l'acidification, et également parce qu'on les aura brisés pour faire ces remblais. Mais en fait, c'est quelque chose qui pourrait se passer de la sorte.
Alors dans quelques minutes, on va retrouver la chronique d'Alexandra Delbault. Donc, avant de retrouver la chronique avec science, impossible de ne pas parler des solutions. Que faire dans l'immédiat, Marina Lévy ?
Je pense que même si ça n'a pas une conséquence immédiate, là vraiment ce qu'il faut faire, c'est d'atténuer les effets futurs, donc vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On peut pas se baser uniquement sur l'adaptation. On ne peut pas se passer d'une politique solide et forte d'atténuation rapide, la plus rapide possible. Ensuite, il y aura toutes ces stratégies d'adaptation qui ont été très bien évoquées dans le documentaire, et Gonéry en a parlé, soit de construire des digues, sachant les coûts et les risques que ça induit, soit renaturer, c'est-à-dire reconstruire les écosystèmes naturels qui ont été détruits pour reconstruire ces protections naturelles, soit au contraire supprimer les digues, à l'inverse, redonner les espaces à la nature. Donc il y a toutes ces solutions d'adaptation, dont la migration fait partie, déplacer les populations vers des points plus culminants de leurs îles ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment allier ces deux efforts d'atténuation et d'adaptation en même temps. Tu as dit, Gonéry, que les îles risquaient pas de disparaître à l'horizon de la fin du siècle. Néanmoins, les risques vont être bien plus accrus et la vulnérabilité dans ces îles-là d'ici 2050-2100, elle sera très forte.
Alors, en fait, la première chose, c'est effectivement, vu du point de vue des gens qui travaillent sur les risques, en fait, l'atténuation, c'est ce qui permet de donner du temps à l'adaptation. C'est-à-dire que si, effectivement, on n'atténue pas le réchauffement climatique, on a une accélération du niveau de la mer qui se poursuit. Le risque, c'est d'être pris de vitesse. Pris de vitesse parce que des projets de relocalisation, comme on parlait à Miquelon, c'est des projets, en fait, qui prennent des dizaines d'années, en fait. Vous voyez ? Donc, l'atténuation pour donner du temps à l'adaptation. Et deuxièmement, en fait, l'adaptation, effectivement, c'est des transformations très importantes. C'est-à-dire qu'en fait, dans certains cas, on va avoir des projets qui vont coûter des milliards d'euros pour protéger des estuaires, par exemple, des zones estuariennes où il y a des enjeux portuaires, des sols pollués, etc. Et puis, dans d'autres, on va organiser de la relocalisation. Ça coûte très cher également. Donc, on va avoir des transformations qui sont rendues indispensables par l'élévation du niveau de la mer. Ça peut être vu, en fait, comme une contrainte, mais ça peut être vu également comme une opportunité. Comme une opportunité de mieux gérer ces zones côtières et d'offrir des opportunités aux écosystèmes côtiers, et notamment par exemple aux marais, des plages, etc. En fait, faire quelque chose que déjà mes collègues du BRGM disaient à la fin des années 90, donner de l'espace pour les sédiments et les écosystèmes afin qu'il y ait une réponse naturelle à cette élévation au niveau de la mer. Ce ne sera pas possible partout, mais il y a quand même des acteurs qui le font, par exemple en France, le Conservatoire du Littoral.
Et voilà, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est la conclusion de toutes nos émissions dès qu'on parle d'environnement. Nous sommes arrivés à la fin de cette discussion, et donc un grand merci à vous deux. Mais pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditeurs, Marina Lévy, à se tourner vers votre ouvrage qui est déjà paru avec Laurent Bopp, L'Océan en 30 questions. C'est paru l'an dernier aux éditions La Documentation Française, et bientôt aux éditions Stock, Quand l'Océan s'éveillera. Merci à vous deux. Tout de suite, on part à la découverte d'un dinosaure piquant. C'est la chronique avec science.
Que trouve-t-on sur la peau des dinos? Cela fait près de 30 ans qu'ont été mis au jour les premiers fossiles extrêmement bien conservés de la peau des dinosaures et depuis, on en sait un petit peu plus sur leur apparence. Ils portaient tous des écailles, mais tout ce qui pousse sur leur peau varie beaucoup selon les grandes familles de dinosaures. On distingue d'un côté les saurischiens qui portent des appendices fins, structurés, ramifiés en barbe et barbules, ce sont des plumes, alors que les ornithischiens, eux, ont des excroissances très différent. Ninon Robin est paléontologue et chargée de recherche CNRS au laboratoire Géosciences de Rennes.
Ils sont jamais ramifiés. Ils peuvent être disposés vraiment de manière isolée. Comme ça, on le retrouve chez un dinosaure qui s'appelle Psittacosaurus, qui est un groupe frère des dinosaures comme le Triceratops, typiquement, où là, on va avoir un filament unique relativement induré et isolé, alors que chez d'autres groupes, dans ce groupe toujours des ornithischiens, on a ces petits monofilaments qui sont organisés en petites touffes. Et ça, on va le retrouver notamment à la base de la queue d'un autre dinosaure de ce groupe-là qui s'appelle Culindadromeus. Et lui, c'est un groupe frère du grand groupe des ornithopodes, donc vraiment celui qui va inclure celui des iguanodons. Il y a un catalogue large de diversité, mais qui quand même semble définir des structures que l'on retrouve dans un groupe et dans l'autre.
Un nouveau fossile découvert dans le nord-est de la Chine vient ajouter davantage de diversité à tout ce panel d'appendices cutanés. Ce pays est particulièrement connu pour ses fossiles exceptionnels. Ces gisements sont parmi les premiers à avoir montré que les dinosaures avaient des plumes et donc que les oiseaux d'aujourd'hui sont des dinos qui ont survécu. Mais ici, il ne s'agit pas seulement d'une description minutieuse à l'œil nu. Les scientifiques ont pu reconstruire en 3D les excroissances étranges de ce fossile et grâce à des coupes histologiques très précises, ils ont pu étudier en détail la structure cellulaire et la comparer à des tissus modernes. Et résultat paru dans cette nouvelle étude de Nature Ecology and Evolution, c'est une tige creuse, de plus en plus creuse à mesure qu'on s'approche de sa base, avec une gaine épaisse autour. Ça n'a rien à voir avec une plume, ce ne sont pas non plus des filaments, ce sont des piquants, et c'est la première fois que cette structure est découverte chez un dinosaure.
Jusqu'alors, lorsqu'on fait des coupes à l'intérieur de la barbe, des barbules ou du rachis, donc vraiment la structure principale de l'organisation d'une plume, on n'a pas nécessairement cette organisation. Et du coup, cette organisation, elle témoigne tout simplement d'une nouvelle structure cutanée chez les dinosaures, qui n'était pas décrite jusqu'alors et qui, du coup, est décrite comme des piquants parce que cette structure avec un cortex et un centre plus poreux, eh bien, c'est connu chez d'autres organismes, mais pas chez les dinosaures. Et on appelle ça des piquants. Ces dinosaures-là qui viennent d'être retrouvés, c'est justement effectivement un ornithischien, puisque c'est un dinosaure de la famille des iguanodonciens. Et il présente, comme on le sait, existait jusqu'alors chez d'autres ornithischiens, deux types d'écailles. Et pour la première fois, du coup, ces épines, et ça, ces épines, en fait, on ne les connaît pas chez les ornithischiens, on ne les connaît pas non plus chez les saurischiens, mais du coup, elles décrivent quelque chose d'entièrement nouveau et indépendant.
Cette nouvelle espèce est nommée Aolong Dongi. Ses piquants ont été retrouvés sur le cou, le poitrail et le dos de l'animal. Le spécimen entier mesure 2,5 mètres de long, du nez jusqu'au bout de la queue. Mais pour l'instant, on n'en apprendra pas beaucoup plus sur son évolution et sur sa place face aux autres dinosaures, parce que c'est un individu juvénile. C'est un jeune dino. Or, les jeunes ne sont pas de bons modèles pour reconstituer précisément l'anatomie des adultes. Pour aller plus loin, il faudra donc continuer les fouilles et espérer tomber sur d'autres spécimens pour mieux comprendre l'origine de cette étonnante innovation cutanée.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond-Ségy. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Guirec Corbin. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.